Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et je vous propose une lecture toute simple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et à partir du verset 9. Voilà, c'est un épisode qui nous est rapporté par également par Marc, par Luc, et dans un épisode d'une rencontre, eh bien, tout à fait particulière, et j'aimerais donner un commentaire sur ces quelques versets. Voilà, Matthieu chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Dans un autre évangile, il est question de Lévi. Alors, Matthieu et Lévi, c'est le même. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Voilà, je n'irai pas plus loin dans la lecture puisque le choix a été fait de ces premiers versets et de les commenter. Alors, j'aimerais simplement rappeler quelque chose qui est très, très courant de notre temps. Vous savez ce que c'est qu'un péage ? Oui. Ils ont brûlé dernièrement les péages. Mais enfin bon, c'est pas le sujet, naturellement. Mais on a tous pris naturellement ces accès, ces voies payantes. Vous allez d'un endroit à un autre. Vous pouvez traverser l'Europe comme ça avec des péages. Alors il y a des pays c'est gratuit, puis d'autres c'est payant. Chez nous c'est payant. Et nous allons donc d'une distance à une autre. Et naturellement le parcours est tarifé en fonction des kilomètres. Alors, vous prenez un petit ticket, je vais vous rappeler un peu comment ça se passe, et puis bah, vous faites les kilomètres que vous voulez, et puis la destination que vous avez choisie, et puis à un moment donné, vous arrivez tout simplement à ce qu'on appelle un péage. Et là, à ce moment-là, eh bien, il faut sortir votre carte de crédit ou votre argent, et puis bah, vous réglez parce que vous pouvez pas aller plus loin. Et vous pouvez pas faire demi-tour non plus. Donc, on s'engage à chaque fois que l'on prend une autoroute, on sait très bien que à la destination choisie, voulue, eh bien, il va falloir payer. Alors, c'est intéressant, et voyez-vous, ce mot, il existe depuis toujours. Je pense que dans l'Ancien Régime, il y avait des octrois, des maisons de péage. Autour de Paris, c'était comme ça. Il en reste encore quelques vestiges. Et c'était tout à fait particulier, parce que c'était, en quelque sorte, une taxe, un impôt qui était demandé à ceux qui circulaient, aux voyageurs, à tous ces gens-là. Alors, si nous reprenons notre texte, et il y a peut-être matière à réflexion autour de ça, et nous amener véritablement à la pensée de l'Évangile, et cette histoire, naturellement, met en place eh bien Jésus, et puis un homme qu'il rencontre, qu'il deviendra un personnage quand même important, puisque l'homme dont il est question, c'est le même homme dont nous avons ouvert le livre, le plus grand, enfin, en commentaire et en écriture, parmi les quatre évangiles, il s'appelle Matthieu. Alors voilà, donc, il nous est dit qu'un homme assis au bureau des péages. Je voudrais lui donner aussi cette signification au bureau, à la table. Voilà. Comme il y avait dans d'autres textes de la Bible, les tables de changeurs, dans le temple de Jérusalem. C'est en quelque sorte un péage. Hein. On pourrait dire que c'était comme ça pour rentrer dans le temple et faire des sacrifices, faire des offrandes. Donc, à la table des péages, on va pas faire trop de différence entre une table. Enfin, souvent, il y a toujours une table. Dans nos péages modernes, il y a une tablette, vous comprenez. Maintenant, c'est automatique. Mais quand c'était administré par du personnel, il y en a encore, mais de moins en moins. Alors voilà, il nous est dit que cet homme était assis. En quelque sorte, il était installé. Voilà, il avait eh bien toute commodité pour faire son travail. Il était établi, donc il était assis. Et nous voyons que ce qui nous est dit d'une manière très très lapidaire, eh bien, c'est une situation qui fixe le caractère, l'état, la fonction permanente et qui lui assurait naturellement eh bien, son gagne-pain. Voilà. Il avait un travail, c'était un administratif, nous pourrions dire. Et il était là pour percevoir bien tout simplement ses taxes. Il avait une sécurité de l'emploi, on pouvait dire, parce que bon, il avait été reconnu, habilité. Peut-être, aujourd'hui, on parle beaucoup de formation, mais certainement qu'il avait reçu quelques instructions, et ça ne devait pas être très très compliqué. Donc, on peut dire qu'il était assuré d'un emploi, et c'est assez curieux, parce que finalement, on va voir que dans ces quelques mots qui sont devant nous, eh bien, cet homme est extraordinaire dans cette rencontre avec Jésus, d'un instant à l'autre, eh bien, il va véritablement changer de condition. Voilà. Il aurait pu dire, comme beaucoup peuvent dire aujourd'hui, bien, surtout par les temps qui courent, où il y a tellement de chômage, tellement de précarité de l'emploi, que quand on a un travail, on le garde, naturellement. Et nous voyons que c'est quand même assez curieux pour Matthieu, parce que je pense que il était un employé d'une... je n'irais pas dire une compagnie, mais il avait naturellement une hiérarchie au-dessus de lui, et il va changer du tout au tout en un instant, il suffit qu'un homme passe par là, et que là, eh bien, finalement, tout change pour lui. Mais c'est de sa propre volonté. Et il va vivre une expérience de changement radical de sa vie qui va le mettre, lui, peut-être dans l'insécurité et peut-être dans la précarité pour suivre quelqu'un qui lui dit, tout simplement, eh bien, d'emboîter ses pas et finalement de le suivre. Et on pourrait dire que son emploi est un emploi statique, comme tous ceux qui sont bien établis. Voilà, ils sont là. Et c'est un état, en quelque sorte. Il remplit un office, ou l'office de percevoir la taxe, ou les taxes, tout simplement de passage. On pourrait dire que c'est un percepteur. Alors, on aime beaucoup les percepteurs, c'est vrai. Ils se rappellent toujours à notre souvenir plusieurs fois par an. Et c'est vrai que, là aussi, c'est un péage, en quelque sorte, que ils vont vous laisser passer si vous payez pas à l'heure. Mais vous allez payer plus cher. Voilà. Et plus vous attendez, plus ça augmente. Alors, on comprend que naturellement, tout cela, eh bien, c'est toute une affaire, naturellement, à prendre en considération. Je voudrais m'arrêter sur le mot péage quelques instants. Ça vient d'un mot latin qui s'appelle, qui dit ceci, prédaticum. Et vous allez voir qu'il y a une signification quand même, parce que ça a une signification de pied. Voilà. Alors, à ce temps-là, naturellement, on n'avait pas les commodités et les véhicules que nous avons, mais les gens marchaient à pied. Et même pour marcher à pied, finalement, eh bien, il fallait payer quand il y avait à passer d'un endroit à un autre, qui était, eh bien voilà, déterminé naturellement par la loi, le gouvernement, la législation. Et on s'aperçoit que c'était véritablement, eh bien, très en cours dans le temps. Alors, est-ce que c'était un impôt, une taxe perçue par les Romains? C'est possible. En tous les cas, c'est ce que faisait Zachée, lui. Il était véritablement préposé pour le compte des Romains. C'est pourquoi il était vraiment haï de tout le monde. C'était un juif qui percevait pour le collaborateur. Alors, heureusement, il y a déjà des péages pour les camions et puis les voitures. Mais imaginez-vous que dans la ville de Saint-Nazaire, il y a des péages pour les piétons. Fouah ! Alors, on fait payer du stationnement maintenant. Pendant très très longtemps à Saint-Nazaire, tout était gratuit. Mais depuis 2 ou 3 ans maintenant, eh bien voilà, enfin le centre-ville, pourrait-il que c'est ainsi. Alors, il y a le mot « pied » dans cette affaire, et c'est intéressant, et c'était un droit qui était perçu par un passager, quelqu'un de passage, donc il passait, et c'était une taxe pour les personnes, certainement qui marchaient à pied, il devait y avoir certainement une taxe pour les véhicules, enfin les charrettes, etc., et tout le reste, pour les animaux, on taxait naturellement, les marchandises, parce qu'ils empruntaient une voie publique. Alors, il y avait naturellement, eh bien, certainement une redevance qui faisait que, par exemple, quand on devait passer une rivière sur un bac, par exemple, et pour un pont, pendant, je crois, 25 ans, notre fameux pont de Saint-Nazaire, reliant les deux saints, Saint-Nazaire et Saint-Brévin, a été payant, et c'est vrai que c'est représenté, moi je n'ai pas trop connu cela, mais ça représentait quand même une certaine somme pour passer d'un côté ou d'un autre. Je crois que les 44 étaient avaient un traitement de faveur, mais les étrangers, c'est autre chose. Bon, tout ça c'était naturellement pour un temps, pour rentabiliser cet ouvrage, et certainement que ça rendait service, qu'au lieu de faire le détour en passant par Nantes pour faire 3 kilomètres, ce qui faisait 160. Alors, la solution a été trouvée. C'était quand même beaucoup plus simple. Alors, on demandait un péage. Voilà. Il y a encore de nombreux passages et de nombreux ponts, encore aujourd'hui, où il y a un péage. J'aimerais faire une remarque au passage. C'est qu'il y a deux façons de se comporter devant un péage. C'est-à-dire, c'est de rester derrière la barrière. Tant que vous n'avez pas payé, elle va pas se lever, hein. Et à moins de la forcer. Mais là, vous avez quand même, derrière le péage, il y a toujours quand même des messieurs en képi qui sont prêts à vous rattraper. Mais, ou alors, vous restez derrière et vous attendez comment ça se passe. Mais vous n'allez pas attendre longtemps parce que ceux qui sont derrière vous, ils vont vous pousser, hein. Il va falloir sortir immanquablement l'argent. Ou alors, s'avancer pour poursuivre la vie, moyennant naturellement, eh bien, une redevance, ce qui est tout à fait normal. Et vous savez que le péage illustre une séparation. Voilà. Entre un tronçon et un autre. Entre une partie de route que vous avez déjà accomplie, et puis, si vous voulez continuer votre voyage, il va falloir rentrer sur un autre, sur une autre partie de cette route ou autoroute. Et ça, naturellement, on pourrait l'appeler une séparation, on peut l'appeler une barrière. Tout simplement. Un barrage. Voilà. Et j'aime bien, justement, cette idée de péage associé au mot barrage. Et on a mis les conditions, on a déposé les principes il y a un instant, et naturellement pour s'en affranchir et de voir la barrière se lever, alors à ce moment-là, bien, il faut faire ce qu'il faut faire, tout simplement. Il faut s'acquitter par un paiement, on l'a dit, c'est-à-dire soit être retenu parce qu'on ne veut pas payer, ou alors tout simplement retrouver la liberté de rouler, la liberté de pouvoir poursuivre sa route et la liberté de circuler. C'est la condition, tout simplement. Ou alors, si vous ne circulez que les jours de grève, ça vaut la peine, mais il faut d'abord savoir quand ça va arriver. Hein, on va pas circuler beaucoup. Enfin, ça peut arriver. Alors, il nous est dit que Matthieu était assis. Et c'est quand même assez intéressant. Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Il était dans une position statique. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, il n'avait pas trop d'inquiétude, il avait un travail fixe, il était dans cette situation. Et pour aller plus loin, naturellement, eh bien, Matthieu était assis, mais pour aller plus loin, il faut se lever. Ah oui, et c'est ce que Jésus va lui signifier d'ailleurs. Et se mettre en marche, en d'autres termes, décider de ce que l'on choisit et de ce que l'on veut. En tous les cas, on peut souligner le caractère de Matthieu, c'est qu'il n'a pas été très long à choisir, et à manifester son vouloir et son désir à la parole que Jésus lui adresse « Suis-moi ». Il n'a pas fait un grand discours, hein. Il ne lui a rien expliqué. Jésus ne lui a pas dit « Écoute, si tu me suis, moi je suis le Messie. Si tu me suis, tu verras des choses extraordinaires. Si tu me suis, tu verras, finalement, eh bien, il y aura beaucoup de barrières qui tomberont. Des barrières morales, des barrières, voire même politiques, on ne sait pas. Hein, et toutes sortes de choses. Alors, on en est là, finalement, et Matthieu est un personnage quand même qui est très intéressant à prendre en considération. Et il y a ici finalement un appel précis qui lui est adressé. Viens et suis-moi, ou tout simplement dans notre texte, eh bien, suis-moi. Il était assis, mais il ne reste pas assis. Jésus lui a donné une injonction. Lève-toi et suis-moi. Ce qu'il fait immédiatement. Alors, il n'est pas resté assis. Il n'est pas resté dans sa situation qui pouvait finalement lui être qui lui était agréable. Il avait du travail, il voyait du monde passer, c'est vrai. Il n'était pas, hein, c'était quand même quelque chose d'assez vivant, on peut dire. Il n'est pas resté dans l'immobiliste en quelque sorte. Et vous savez, je crois que je vais aller de plus en plus dans l'explication, mais il y a un texte dans l'Ecclésiaste au chapitre 11, si je me souviens bien. Et au verset que je le retrouve, il est dit ceci, alors attendez que je retrouve, ouais, voilà exactement. Il nous est dit que celui qui observe le vent ne moissonnera pas, et celui qui regarde les nuages ne sèmera point ou ne moissonnera pas comme on veut. Hein. Celui qui considère le vent ou qui regarde les nuages, c'est-à-dire qui est statique, qui ne bouge pas, il est assis, tranquille, sa vie ne va pas changer, il n'a pas de problème majeur. Il est comme ça. Alors il regarde, tout simplement, comment ça se passe. Mais il nous est dit qu'il n'y aura pas de fruit. Il nous est dit que celui qui est là, il n'est pas dans l'indécision, cet homme. Mais néanmoins, eh bien, voilà, il passe son temps à voir un petit peu tout ce qui se passe autour de lui, mais il ne va pas se lever. Alors, la réponse qui nous est donnée dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est que il n'y a aucun espoir de voir des changements, de voir des choses dans notre vie, de partir à une belle aventure comme, nous l'indique ce texte. Tout simplement, il reste là. Et je voudrais maintenant aller un peu plus loin. Il y a bureau et table. Voilà, ça c'est une tablette, c'est une table, voilà, là-bas aussi. Et puis, ça remplit finalement les maisons, hein, les tables, il y en a partout, on en a besoin. Et à une table, on reste pas debout. On est assis, naturellement, soit pour manger. Vous savez que l'image de la table dans la Bible revient très souvent. J'ai regardé, j'ai pas estimé quantitativement combien de fois le mot table revient. Mais il revient dans différents cas. Hein. Il revient pour, on le verra à la fin de notre message, dans des situations où on s'assied à une table qui est une table de malheur, une table de malédiction, une table qui nous entraîne à des choses qui ne sont pas bonnes, où on peut s'asseoir à la table des hommes, qui est l'image et l'emblème de la réjouissance, de la gaieté, du partage des bonnes choses. Et puis, il nous est dit que on peut s'asseoir à la table de Dieu aussi. Hein. Ça, c'est le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table ». Et puis, il est question également dans le ciel, des noces de l'agneau, hein, voilà, de toutes sortes de réjouissances, de toutes sortes de choses. Alors, tout ça, c'est, ça évoque quelque chose. Et pour revenir à notre Matthieu, là, eh bien, la question est posée de savoir s'il va rester là ou s'il va avancer. Et la question nous est posée aussi, qu'est-ce que nous voulons choisir à la proposition de Jésus? Et la proposition de Jésus, elle se répète des millions et des millions et des millions de fois dans l'histoire du monde. Qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous restons assis? Est-ce que nous restons à notre table bien tranquillement? Ou est-ce que véritablement nous entendons l'injonction de Dieu, du Seigneur, qui nous dit maintenant lève-toi, et lève-toi et suis-moi. On ne peut pas faire les deux, c'est pas possible. Comme Jésus l'expliquera dans une parabole, eh bien, il prendra finalement trois, quatre figures, il dira, bien voilà, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Alors il y a trois notions qui sont données, et puis on s'aperçoit que, ben quelque part, sur les trois, ou les trois complètement, eh bien, les gens, ils veulent bien de Dieu, ils veulent bien des propositions de Dieu, mais ils ne veulent rien faire. Ils restent assis, ils restent tranquilles, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas se lever. Et c'est peut-être une des caractéristiques de notre monde chrétien aujourd'hui, ou du message de l'Évangile, où les gens vont en avoir le bénéfice sans rien faire. Tout simplement. Magique. Coup de baguette magique. Vous savez, la fée qui, voilà, touche, et puis il y a des petites étincelles partout. C'est pas comme ça. Parce que Jésus nous dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et puis à ce moment-là, il verra ce que c'est que le royaume de Dieu, s'il veut rentrer dans ce royaume de Dieu. Alors naturellement, cette proposition de Jésus, elle est faite hier comme aujourd'hui. Il l'a fait à Matthieu ce jour-là. Et Matthieu, avec une spontanéité, avec une vivacité, et comme s'il avait été préparé depuis longue date à attendre ce moment-là, cette heure-là, et à voir ce personnage qui s'appelle Jésus venir à la table, à son bureau de péage, c'est comme s'il l'attendait depuis toujours. Et au moment où Jésus lui a donné ces mots, eh bien, il l'a suivi, tout simplement. Mais sans lui poser de questions. Est-ce que nous aurions peut-être fait la même chose en disant, Seigneur, tu m'appelles? Moi, je te connais pas trop, mais j'ai entendu parler de toi. Mais une chose qui est certaine, c'est que, qu'est-ce que je vais devenir? Et qu'est-ce que tu me proposes? On pourrait peut-être faire un contrat. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout marche avec des contrats. Voilà. Hein, les contractants s'engagent et ceci, il y a des devoirs, il y a des obligations, il y a toutes sortes de choses. Alors, un bureau, comme c'était le cas là dans notre texte, c'est un passage obligé. Pour passer ce péage, il y avait un bureau. Et devant ce bureau, il y avait un homme, tout simplement. Et c'est un passage obligé, nécessaire, absolument, parce qu'autrement on ne peut pas aller plus loin. Ou alors, si nous voyons au-delà de cette table, appelée bureau ici, il y a peut-être, et je pense que si Matthieu a écrit tout ce qu'il a écrit, 28 chapitres, c'est le plus important de tous les évangiles, c'est qu'il avait certainement pressenti, il le savait ou il ne le savait pas, mais il y avait certainement quelque chose, l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, qui le préparait à s'asseoir à une autre table, délaissant celle-ci pour s'asseoir à une autre table qui était la table de la joie et de la liberté assurée. Eh oui, en marchant par la foi. Écoutez, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages. Et c'est pour ça que j'ai lu après la suite. Comme Jésus était à table, et il a entraîné Matthieu à sortir de son bureau, de cette table des péages, pour rentrer dans une maison de joie. Une maison où on est heureux. Et le sujet de ce bonheur et de cette joie, c'est que le salut est là. C'est que un homme a été sauvé. Un homme a compris, il a répondu, et maintenant il suit Jésus. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, et il nous est dit des gens de mauvaise vie. Ah oui, c'est eux qui ont répondu les premiers dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils se mirent à table avec lui et avec ses disciples. Vous savez, il y a des choses à lâcher dans la vie. Il y a des choses que nous avons besoin de trancher, d'être déterminés à l'appel et à la voix de Jésus. Autrement, on sera toujours tiraillé. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme riche. Il vient avec une grande spontanéité. Il vient et il s'affaisse, en quelque sorte. Il s'agenouille devant Jésus en disant « J'ai un problème et je suis sûr que c'est toi qui peux le résoudre. J'ai un besoin de vie éternelle. Je voudrais que tu me dises comment ça se passe, qu'est-ce que c'est ?» Alors Jésus va le mettre à table, en quelque sorte. Il va lui donner la composition du menu pour entrer dans le royaume de Dieu. Il va lui dire « Eh bien, ceci, cela, etc., etc. » Et puis, il y a quand même la cerise sur le gâteau, si vous me permettez l'expression. Il va lui dire « Écoute, mon brave garçon, tu veux vraiment du royaume de Dieu? Tu aimes Dieu? Eh bien, moi, je vais te demander une chose. Je sais que tu es riche. Mais moi, je te demande de tout laisser derrière toi. Viens et suis-moi. » Vous savez la réponse? Il n'a pas pu franchir ce péage-là. Là, il n'a pas voulu payer. Il n'a pas voulu donner. Il est resté au péage, la barrière ne s'est pas relevée, parce qu'il nous est dit précisément que quand il a entendu ces paroles, que Jésus, pourtant l'a aidé, lui dit « Il te manque encore une chose. Tu la sais la chose, je viens de te le dire. Tu le sais ce qu'il faut faire, puisque tu es venu me demander une réponse à un problème crucial dans ton âme et dans ton cœur. » Et il n'a pas passé finalement ce péage, il est resté en deçà du péage et nous a dit qu'il s'en est allé tout triste. Ouais. Ça sert à quelque chose un barrage, un péage. Mais c'est pas Dieu qui met les péages. C'est pas lui qui met des barrages. C'est nous qui les mettons nous-mêmes. Et Matthieu est un homme qui a une grande perspicacité. Il a vu par l'esprit l'appel qui lui est adressé qu'il fallait qu'il passe la barrière. Et là, il a découvert déjà dans les premières heures, finalement, de son passage au péage, eh bien, il était tellement heureux qu'il a fait un festin dans sa propre maison. Et tous ses amis, ah oui, gens de différentes espèces, mais néanmoins sont venus, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis parce que il avait passé quelque chose. Et dans les décisions que nous avons à prendre dans notre vie, nous en tant que chrétiens, mais peut-être ceux qui nous rejoignent, des gens de l'extérieur peut-être, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas d'espérance en Dieu, eh bien il y a toujours un franchissement, il y a toujours quelque chose. Où il faut décider, où il faut se décider. Cet homme se leva, nous dit le texte, et il le suivit. Ah, il avait un grand devancier dans cette belle aventure. Vous savez comment il s'appelle ce grand devancier? On l'a appelé le père de la foi, il s'appelle Abraham. Parce qu'il fallait faire ce qu'il a fait. C'est un petit peu, quelque part, Abraham c'était un petit peu un Matthieu avant le temps, ou dans vice-versa, comme vous voulez. Parce que quand Dieu l'a appelé, il n'y avait pas quelqu'un devant lui, une voix qui se fait entendre. Quitte ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et il ne savait pas où il allait. Donc il y a quelque chose qui doit nous conduire. Et c'est toujours une question de parole, que nous entendons, que nous croyons ou non, à laquelle nous allons obéir ou alors à laquelle nous allons nous soustraire naturellement. Alors Abraham, naturellement, sans savoir, lui, Matthieu, sans savoir pourquoi il était appelé, sans savoir comment il allait faire et où il allait aller, mais il savait une chose, c'est que quelqu'un lui a dit « Lève-toi, suis-moi !» Il s'est levé et il a suivi. Après le reste, c'est la foi. Il y a d'abord l'obéissance, il a compris, et après c'est la foi. Abraham a marché par la foi. Matthieu nous donne un formidable exemple dès l'entrée dans l'évangile, d'un exemple formidable, d'une décision de foi. On fait confiance. Mais on ne fait pas confiance à n'importe qui. C'était peut-être une chose tout à fait inédite ce qui s'était passé là. Un homme qui passe, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et voilà qu'il lui dit, bien maintenant tu quittes ton travail et tu me suis. C'est quand même assez étrange. On y regardera deux fois. Le premier venu qui vous dit, tiens, bien, Alain, je te connais, tu viens, tu me suis, tu laisses Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Tu laisses ton état de pasteur, tu laisses ta femme, tes enfants, enfin les enfants, ils sont grands maintenant, mais voilà, tu me suis. Je sais pas, mais je dirais, bah, laisse-moi réfléchir un petit peu. Hein. Eh oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé, hein, naturellement. Alors, il suivit Jésus, nous dit le texte, une aventure improbable et une aventure risquée. Parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment ça va se passer. Enfin, on ne sait pas grand-chose. Et c'est quand on marche un pas devant l'autre qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de glorieux et de magnifique derrière tout cela. Alors, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, naturellement, mais Jésus, oui. Un risque en quittant sa position, on l'a dit et je l'ai répété tout à l'heure, il était assis. Il était dans sa petite situation à son bureau stable, naturellement. Mais en suivant Jésus, je voudrais le dire pour répondre déjà peut-être à des préoccupations et des questions. Pourquoi devenir chrétien? Pourquoi s'engager avec Jésus? Pourquoi devenir disciple? Pourquoi se faire baptiser? Ouais. Pourquoi ceci et cela? Pourquoi faire promesse de fidélité, d'engagement et de consécration? Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, je le rappelle, en suivant Jésus, on ne va jamais vers l'inconnu. Ça peut-être voilé, mais lui, le Seigneur, sait où il nous monte, où il nous conduit. Vous savez, il y a dans le psaume 34, hein, me semble-t-il, au verset 8, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle à l'homme. « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Mais ne redis pas le coup. » Parce que quand on est appelé par le Seigneur, quand on sent cet appel, comme Matthieu l'a ressenti dans son cœur, mais croyez bien qu'il y a un programme derrière. Oui, il y a là quelque chose de bien établi pour nous personnellement. Il y a peut-être quelque chose de commun entre tous les chrétiens comme base de l'appel. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose. Matthieu a été appelé pour devenir un écrivain. Et si Dieu l'a choisi, c'est qu'il était déjà, de par sa fonction qui comptait, il était, on peut dire, un percepteur, il était au péage. Donc, il avait certainement la connaissance de l'écriture, et puis des contes et toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'il va raconter? D'ailleurs, dans son évangile, selon Matthieu, c'est là, je crois, qu'il y a un nombre énorme, un nombre. Il y a beaucoup de chiffres, mais un nombre énorme de citations de l'Ancien Testament. Je crois que c'est là, où dans cet évangile, où on trouve le plus. Donc, Dieu nous choisit en fonction de nos compétences. Mais ce sont des dons humains qui vont être repris en sous-main par le Saint-Esprit pour faire d'un Matthieu le premier écrivain du Nouveau Testament avec des renseignements fabuleux, avec des choses extraordinaires sur la vie de Jésus et sur les perspectives de l'éternité. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Et quand il nous appelle, c'est que il va donner à l'ouvrier les outils. Il va pas nous laisser dans la nature comme ça. Mais il va nous donner les outils. Et chacun d'entre nous, nous avons une vocation. Chacun d'entre nous, nous avons un appel. Les uns, ça sera d'une manière, les autres, ça sera d'une autre. Parce que Dieu sait ce que nous sommes et il sait ce qu'il va faire de nous. Et c'est un véritable monument, ce que Matthieu a écrit et qu'il nous laisse. Donc, on ne va pas vers l'inconnu. Marche et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais Seigneur, moi, je ne sais pas où tu me conduis. Je ne sais pas les privations que je vais connaître. Ça, c'était Paul, hein. Ah, Paul, c'était encore une autre affaire, hein. Quand il a été appelé, il y a eu ce renseignement qui nous est donné dans le livre des Actes. Cet homme, Dieu dira à Ananias, me semble-t-il, cet homme aura tant de choses à souffrir pour la cause de mon nom. Oui. Mais, on le disait, il y a un instant, Paul a pu écrire plus tard, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui compense notre faiblesse et nos manques, et il nous donne véritablement sa puissance et son pouvoir et sa gloire. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est une marche par la foi, tout simplement. Alors, on ne va jamais vers l'inconnu avec Jésus, et surtout, on n'est pas seul. Vous l'avez remarqué dans le texte, si on fait un petit peu l'analyse des choses, Jésus marche devant nous, il se leva et le suivit. Et quand on suit quelqu'un, c'est que ce quelqu'un est devant nous. Et c'est lui qui nous ouvre la route. Et quand on met Christ derrière, quand on met Jésus derrière, là, il y a peut-être des causes d'égarement et de se tromper. Mais quand il est devant nous, comme Bartimée qui était aveugle, qui a été guéri, il nous est dit que, après avoir été guéri, Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Et avant, il était sur le bord du chemin. Mais là, il était au milieu de la route et il suivait Jésus. Il avait été guéri. Et là, il pouvait savoir qui il suivait. Jésus marche devant nous. et nous ouvre la route, et c'est une autre sécurité mise en comparaison avec cette sécurité de Matthieu quand il était au bureau des péages. Il avait sa petite situation, là il venait tout perdre. Il avait donné sa démission, hein, tout simplement. Hein. Et là, il n'avait pas droit aux ascédiques. Hein. Pas question. Hein. Mais c'est une autre sécurité. C'est lâcher quelque chose de charnel, d'humain, de naturel, combien, c'est vrai, c'est naturel, pour aller véritablement vers l'aventure, qui est pleine de risques, c'est vrai, humainement parlant, mais qui est une... Nous avons une assurance que celui qui nous a appelés, il ne ment pas. Il nous tiendra jusqu'au bout, il nous conduira jusqu'au bout et il nous amènera à réaliser la mission à laquelle nous sommes appelés. Sécurité. Et puis, sachons-le, le droit de péage a été payé. Ça, c'est important et nous arrivons au cœur de notre réflexion. Oui, on voit très rarement des automobilistes quand il y en a un qui est coincé au bureau de péage, celui qui est derrière en disant « je veux payer pour vous hein. ». Chacun paie ce qu'il a à payer, c'est tout. Hein. La seule chose que celui qui est derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va râler. Ça, c'est sûr, parce que ça avance pas assez vite. Hein. Mais je voudrais vous dire que la barrière s'est levée pour nous, hein, pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas la statique à attendre quelque chose, à attendre, je ne sais pas, d'hypothétique, hein, peu importe. Mais toujours est-il que le droit de péage a été payé, ça, il faut le savoir. Mais si nous nous souvenons, ça corrobore avec les belles histoires de la Bible, hein. Vous savez, quand les Hébreux étaient esclaves à la table de leur maître en Égypte, de Pharaon en particulier, une table de douleur et de servitude, une table d'esclavage et de mort, Dieu les a fait sortir de la table. Levez-vous, pour que vous deveniez le peuple qui adore, ouais, le peuple d'Israël. Et quand ils ont commencé à sortir d'Israël, de l'Égypte, ils sont passés aussi, ils ont eu un péage, plusieurs péages. Le premier péage, c'était la Pâque. Et vous savez ce que veut dire Pâque? Ça veut dire passage. La barrière qui se lève. Plus de condamnation. Plus de jugement. Et il y avait là quelque chose de très très fort à cette Pâque des Hébreux. C'est parce que finalement, eh bien, il fallait qu'ils passent par là. Tous ceux qui n'étaient pas juifs sont morts. Voilà. On peut dire comme ça, l'Égypte était frappée par toutes ces plaies que l'on appelle les plaies d'Égypte, qui étaient une véritable catastrophe. C'était la mort. Ils ne pouvaient pas passer ce péage parce que on connaissait naturellement, eh bien, toute la haine qu'il y avait dans le cœur des Égyptiens et cette domination, hein, et cette destruction. Mais les Hébreux, c'était le peuple de Dieu. Le péage est ouvert à ce moment-là et ils ont célébré. Donc le mot Pâque, ça veut dire passage, épargné. Et puis il y a celui de la mer Rouge aussi, hein. Parce que l'histoire, c'est encore un autre passage, un autre péage, nous pouvons dire. Comment peut-on franchir une mer à pied sec? Eh bien, elle s'est entrouverte, cette mer, ils sont passés. Voilà. Et après, elle s'est refermée derrière les Hébreux. Et puis ceux qui étaient restés sur l'autre côté, les Égyptiens, ils ont été engloutis, complètement. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester à un péage. Il faut faire véritablement, parce que pour passer ces moments cruciaux, il faut que Dieu soit avec nous. C'est pas possible, autrement. C'est pas possible. Puis il y a Jéricho également, c'était un autre péage. Je ne vous ai pas parlé de la traversée du Jourdain, qui est tout à fait similaire à l'histoire, finalement, de la mer Rouge. Mais Jéricho, il nous a dit que c'était une ville qui était barricadée et bardée de fer. On ne passait pas. C'était un bastion, c'était une forteresse pour rentrer à l'intérieur du pays, alors que Dieu leur avait dit, mais vous allez rentrer dans le pays de Canaan, mais pour rentrer dans le pays de Canaan, il fallait franchir Jéricho. Eh bien, c'était encore un passage, c'était encore un péage. Et là, je peux vous dire que la barrière, elle a dégringolé, hein. Mais d'une manière tellement étonnante, tellement surprenante, miraculeuse, surnaturelle, tout s'est effondré. Et ils ont passé le passage, parce que Dieu est avec eux, tout simplement. Et c'est le même principe spirituel, naturellement. Alors je vous ai dit, quelqu'un a payé à notre place. Et quelqu'un qui nous a dit qu'on n'avait pas assez d'argent, qu'il n'y avait rien à faire, que le prix du péage était complètement là, hors d'atteinte pour nous. Ce que certains ont cru. À travers des fabrications de religion, les indulgences, et puis les passe-droits, et puis toutes sortes de choses. Voilà, on a dit aux gens, bien voilà, moyennant ceci et cela, eh bien on va vous donner le droit de passage, et vous aurez une place au ciel. Vous verrez, on va s'arranger. On a déjà préparé finalement, eh bien la négociation avec le Dieu du ciel. Mais non, c'est pas ça. C'est que la foi, elle nous ramène à considérer que nous ne passerons jamais en tant qu'homme pécheur, mais que quelqu'un est venu et nous dit, bien voilà, maintenant tu peux passer. Ton droit de passage pour aller vers la vie et la liberté et l'éternité, eh bien c'est réglé le problème. Comprenez de qui je veux parler. La gratuité est garantie. Vous avez reçu l'évangile, donnez-le gratuitement. Tout est gratuit avec le Seigneur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'une chose. La seule monnaie qui est valable, le seul moyen finalement qui peut fonctionner, ce n'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est tout simplement la foi. On est sauvé par la foi et c'est une grâce de Dieu. C'est pas un mérite, c'est pas parce qu'on a quelque chose à faire valoir, mais c'est une grâce. C'est selon la miséricorde de notre Dieu, la faveur qu'il nous est donnée. C'est un cadeau. Voilà. On voit rarement le préposé au péage nous dire, écoutez, pour vous, vous êtes bien gentil, passez. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Alors, la gratuité est garantie. Et moi, j'aimerais terminer par 2 ou 3 versets, tout simplement. Écoutez ce que nous dit Jean. Parce qu'il est toujours question, finalement, de péage, de passer, de passager, d'aller d'un endroit à un autre, en toute sécurité, parce que nous croyons. Dans Jean, chapitre 5, il nous est donné cette parole, et au verset 24, si je me souviens bien, verset 24, il est dit ceci. Voilà. En vérité, donc Jésus ne se trompe pas, il pontufle que c'est bien la vérité. Il dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, Matthieu a écouté la parole de Jésus, il y a cru, et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, plus de condamnation, mais il est passé, et là c'est crucial, de la mort à la vie. Rester derrière le péage, c'est la mort. Passer, c'est la vie. Tout simplement. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. On va vers la vie. Oui. Vous allez me dire, mais là, c'est une fausse doctrine que vous êtes en train de prêcher, parce que Jésus nous a dit qu'il ne fallait pas prendre la route large et spacieuse comme l'autoroute, mais qu'il fallait prendre le chemin étroit. Bon, ça tient compte de tous ces paramètres, naturellement. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça montre bien qu'il y a d'un côté, devant la barrière, il y a la mort, et de l'autre côté, eh bien, c'est la vie, tout simplement. Et puis, il y a encore un autre texte qui nous montre peut-être toute l'ampleur de ce passage. Parce que dans le livre des Actes, au chapitre 26 et au verset 18, il nous est dit ceci, mais c'est Paul qui reçoit finalement le message de Dieu pour parler à tous ceux qui sont en possibilité de rencontrer Paul, parce que c'était un prédicateur, un évangéliste, afin que tu leur ouvres les yeux. Oui. C'est ce qu'il a fait. Pour qu'il passe. C'est toujours le mot passé. Toujours une histoire de péage, en quelque sorte. Passé. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, qu'il sorte de l'obscurité pour arriver finalement, eh bien, à la clarté, au rayonnement du ciel et de la puissance de Satan à Dieu. Alors là, c'est celui qui véritablement est le type pour les Hébreux de Pharaon, Satan. Celui qui réduit les hommes à l'esclavage, à la misère, à la mort. Pour l'amener finalement à Dieu, c'est lui qui donne la véritable liberté, celui qui nous donne le salut, pour qu'ils reçoivent, on pourrait dire, la caution de leur acquittement, ce ticket qui nous permet de payer, qui nous donne droit de passer gratuitement, eh bien tout simplement par la foi en moi. C'est parce que je crois en Jésus que le péage est ouvert, que la barrière se lève, qu'il n'y a plus de barrage, et qu'il reçoit par-dessus tout cela le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire avec tous les chrétiens qui croient. Et puis, un autre cas qui nous est donné, je voudrais simplement le signaler, parce que il y a ceux véritablement qui croient authentiquement, avec authenticité, je l'ai dit il y a un instant, mais il y a également cette parole pour ceux qui se donnent l'illusion d'être, et tous ceux qui veulent être un petit peu, en quelque sorte, qui trompent, qui fraude au passage du péage, il y en a, Vous savez, l'autre jour, il y avait une émission à la télévision, mais ça fait déjà quelque temps, il y a des gens qui font ça, mais qui le font régulièrement, Mais faut pas qu'ils se fassent prendre, Ils se collent à la voiture d'en face, ceux qui sont devant lui, mais ils collent par choc à par choc. Et dès que, parce qu'il y a toujours un petit temps, et on l'a vu en démonstration, il y avait une caméra, Il y a des malins, quand même, Et il avait collé tellement, et le premier, quand il commence à accélérer, l'autre, il est juste derrière, et 2 voitures passent ensemble. C'est-à-dire que le premier a payé et le deuxième, c'est gratuit. Enfin, de toute façon, c'est volé, Mais vous l'avez peut-être vu, cette histoire. C'est assez surprenant, Et cet homme disait, mais moi je fais ça tous les jours, hein. Je me colle à la voiture d'en face, et le temps que ça s'ouvre, ah oui, naturellement, eh bien voilà, il me dit, mais je fais ça, c'est un sport. Voilà, c'est du sport. Ben, il fait des économies à la fin du mois, hein. Mais attention, il y a des resquilleurs, il y a ceux qui trompent. Et regardez, écoutez, pour ceux qui resquillent, qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse chapitre 3 ? Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Comprenez ? Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Tu passes pour être vivant et tu es mort, parce que tu ne suis pas les règles, finalement, des conditions pour passer de la mort à la vie. C'est de l'illusion. C'est trompé, tu te trompes toi-même, tu te mens à toi-même, et tu voles, en quelque sorte. Illusion d'être. Parce que Jésus a été clair, hein. Et il a dit, mais si quelqu'un veut me suivre, voilà ce qu'il faut faire. Porte sa croix, renoncer à lui-même. Regardez notre Matthieu, là. Il n'a pas discuté, il n'a pas resquillé. Il est rentré dans la vie qui lui était promise. Conclusion, je voudrais simplement dire, ne restons pas assis derrière la barrière. Parce qu'on peut y rester longtemps, hein. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à se décider, qui se disent, moi je veux bien passer, mais je veux pas payer. Mais on n'est pas question de payer, puisque tout est déjà payé. C'est une question de croire simplement que le prix de passage a été payé. Tout simplement, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle de l'incrédulité. Et alors on fait toutes sortes de choses, on a parlé de ceux qui resquillent. Ne restons pas derrière la barrière sans oser la franchir, mais plutôt faisant comme Matthieu, d'avancer sans crainte, hein, tout simplement pour une aventure d'authenticité, de vérité, une inédite et exaltante, en marchant sur les pas de Jésus. C'est l'histoire de Matthieu. Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit, et Matthieu est devenu ce qu'il est devenu. Formidable, extraordinaire. Et je crois que, vous savez, le mot Matthieu, je suis bien placé pour le savoir, mon fils s'appelle comme ça. Ça veut dire Dieu a donné. Hein? Pas Dieu donné. Dieu a donné. Ou don de Dieu, si vous voulez aller par là. Ah non, quand même. Comment voulez-vous que je sois sérieux? Vous éclatez de rire quand je dis des choses comme ça. C'est pas possible. Ouais, Dieu a donné, parce que vous savez, chacun d'entre nous, nous portons le nom de Matthieu. C'est vrai, parce que Dieu a quelque chose de particulier. Et il dit, voilà, suis-moi maintenant, viens. T'as besoin d'aller plus loin avec moi, et tu verras ce que je t'ai réservé. Alors, ah, c'est difficile de s'arrêter quand on prêche. C'est difficile, mais écoutez cette parole. Dans le psaume premier, quand il est dit ceci, bon, ben vous le connaissez, on pourrait presque le faire de mémoire, aussi connu presque le psaume 23. Hein. Alors je vais vous le dire, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans ce psaume, et c'est très significatif dans ce que nous disons. Alors voilà, je vais trouver quand même la page. Voilà, écoutez bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des eaux, des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Oui, voilà. Parce que Dieu nous fait passer d'un stade à un autre, d'un état à un autre. Il faut savoir quelquefois sacrifier certaines choses, renoncer à certaines choses, parce que ce que nous voulons garder, nous perdrons à un moment donné. Et par contre, si nous faisons et nous jouons le jeu de la foi et de la confiance en Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, nous sommes comparés à tout simplement ce psaume. Et dans le psaume 18, il y a cette parole qui est pleine d'enthousiasme pour chacun d'entre nous et qui est une véritable, en effet, eh bien, un engagement. Quand il est dit ceci, le psaume, voilà, 18, j'ai dû remettre déjà la page en position, et au verset 30, 18-30, il est simplement rappelé: avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alors, ça revient un petit peu à la même chose. Ouais. Une barrière, c'est pas très haut. Mais une muraille. Une montagne. Eh oui, l'Everest. eh bien le Seigneur est capable de nous faire monter en haut de la montagne. Et c'est en haut de la montagne que nous voyons les splendeurs de sa grâce, de sa gloire, de sa puissance, de ce monde qu'il nous a réservé. Alors, merci Mathieu, hein, pour finalement cette belle expérience et montrer la spontanéité qu'il a eu à répondre. Et il a été spontané parce qu'il a cru de tout son cœur. Alors on va prier quelques instants. Voilà, on va simplement remercier le Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette parole encore une fois de plus. Il y a des merveilles, Seigneur, dans cette écriture que l'on appelle la Bible. Et nous voulons croire, Père éternel, que chaque personnage qui apparaît à un moment ou à un autre, eh bien, nous laisse un formidable message. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous marchons. Nous sommes des passagers sur cette terre, dans cette vie. Et parfois, il y a, c'est vrai, Seigneur, des barrières. Il y a des obstacles, il y a en effet, Seigneur, des péages. Mais Seigneur, nous pouvons véritablement marcher et aller jusqu'au bout en sachant que tout est payé déjà à l'avance, que Jésus est mort pour nous, qu'il a donné sa vie, que nous sommes justifiés, que nous sommes affranchis, que nous sommes pardonnés et que nous avons, Seigneur, eh bien des possibilités infinies en te suivant sûrement puisque nous te faisons en effet confiance, tu marches devant nous. Et nous te remercions et nous te bénissons. Merci de ce que tu as abattu tous les péages et de ce que tu nous laisses entendre et que nous savons, et tu le confirmes par ta parole ce soir, tu le confirmes par ton Saint-Esprit, qu'en effet, Seigneur, eh bien tout cela nous a été préparé à l'avance parce que tu as pour chacun et chacune en réserve des bénédictions et nous te bénissons, Seigneur, pour ce Matthieu de l'Évangile qui nous montre, Seigneur, qu'il s'est levé et qu'il a suivi Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci mon Sauveur, nous serons capables de faire des exploits et de franchir des murailles. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.